Radio Kapi, grand témoin.
Ancien Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur et secrétaire général de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, le professeur Vincent de Paul Lundabululu est aujourd'hui l'invité de grand témoin. Professeur Lundabululu, soyez le bienvenu.
Merci.
Comment allez-vous ?
Fort bien.
Vous avez une expérience de 32 ans dans l'enseignement supérieur et universitaire et vous avez une carrière politique très riche dont nous allons parler au cours de cet entretien. Du 25 avril 90 au 31 mars 91, vous êtes nommé Premier ministre du premier gouvernement de transition de la République du Zaïre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en ce moment-là, tant on sait que les années 90 bouillonnaient politiquement?
Oui, écoutez, j'étais à Libreville, je reçois un message qui vient de notre ambassade à Paris et puis de notre ambassade au Cameroun et l'on m'informe que je suis attendu à la présidence de la République et je me demande bien pourquoi, mais comme au Gabon venait de se passer une conférence nationale, je m'étais dit que probablement l'on souhaitait pouvoir parler de cette conférence. Et j'ai réuni la documentation à cet effet.
Certains spécialistes de la politique ont qualifié votre gouvernement de technocrate invertébré, c'est-à-dire des personnes sans expertise avérée dans la gestion des affaires publiques. Qu'en dites-vous?
Oui, il est vrai que peu après ma nomination, on ne me donnait pas 3 mois. On pensait que j'allais me trouver devant des difficultés telles que je serais obligé d'être renvoyé à mes études. Ça veut dire probablement à Libreville. Mais je pense que la réalité des faits a démenti cela. Et aujourd'hui, la presse, permettez-moi de le dire, dit très souvent que je suis tout de même un de moins mauvais premier ministre. Oui, alors par moins mauvais, je voudrais que l'on traduise et l'on arrivera à la conclusion que je suis probablement un des meilleurs premiers ministres.
Sur le plan économique, on retient que cette période où vous étiez premier ministre était caractérisée par une inflation galopante. Cependant, vous affirmez que vous avez mené une politique de bonne gouvernance par une gestion transparente.
Écoutez, je dirais d'abord que toute inflation n'est pas mauvaise. L'inflation peut avoir des effets positifs sur l'économie dès lors qu'elle concourt à l'investissement, à la production de grands travaux et à l'amélioration des conditions de vie de la population. Des grands travaux, il y en a eu. L'amélioration des conditions de vie de la population, toutes catégories confondues, a aussi eu lieu. Donc, on ne peut pas condamner cette inflation. On condamne une inflation qui va à l'encontre du progrès social et des progrès économiques.
La veille de votre prise de fonction se perpètre le massacre des étudiants de Lubumbashi. Vos détracteurs vous accusent d'avoir fait repeindre les murs des homes pour effacer toute trace de sang. Que répondez-vous?
Écoutez, ce sont des histoires auxquelles il ne faudrait même pas répondre. Je me suis rendu à Lubumbashi en juin et les traces de tout ce qui s'était passé étaient encore là. En réalité, il n'y a pas eu massacre, comme on l'a dit. Il y a eu, c'est vrai, des incidents extrêmement graves entre les étudiants, mais on avait déploré un seul mort et des blessés. Comme à l'époque, la presse, vous savez, c'était cette presse qui écrivait n'importe quoi. Bon, elle en avait profité parce que probablement elle visait plus le président de la République que mon gouvernement, mais je m'étais rendu à Paris et j'avais lancé un défi à la presse internationale de dire que celui qui a plus d'informations, qu'il n'y a plus de morts, qu'il me les dise et mon gouvernement prendra les dispositions appropriées pour réprimer les auteurs.
À Kinshasa, la population retient de vous un très bon souvenir, c'est le pont Makelele qu'on a rebaptisé pont Lundabululu. Mais pourquoi une année après votre prise de fonction comme Premier ministre, vous démissionnez?
Écoutez, c'est une question qui revient souvent. J'espère que j'aurai le temps d'écrire mes mémoires et d'en parler plus longuement. Mais je vous dirai d'ores et déjà que moi je n'étais pas issu d'une majorité parlementaire. J'avais été nommé par le président de la République qui venait de libéraliser les institutions. Dès lors qu'il y avait certains problèmes entre le président et moi, il revenait à moi de partir et non pas au président pour lui laisser les mains libres et constituer un gouvernement qu'il souhaitait avoir. Mais je ne pouvais pas vraiment me maintenir dans ces conditions-là. Ça ne me ressemblait pas.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Professeur Vincent de Paul Lundabululu, Premier ministre honoraire, de décembre 84 à 89, vous êtes le premier secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, nommé par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement. Comment y arrivez-vous?
Écoutez, lorsque j'arrive à Libreville, je n'ai pas d'instruction du président en exercice. Donc, je dois recourir à mon savoir-faire, à mon imagination, pour donner corps à la CAC, non seulement pour donner corps, mais aussi pour lui donner une âme. En quelque temps, nous étions connus de la plupart des organisations internationales et nous avions bénéficié de quelques financements. Ce n'était pas facile, je dois vous le dire, mais il fallait absolument que la CAC, qui existait en droit, existât en fait.
Vous le savez, la RDC préside actuellement la CEEAC, mais que gagne-t-elle dans cette institution?
Bon, écoutez, elle aurait pu gagner beaucoup si elle avait un dessein. Notre pays n'a pas encore compris que ce n'est pas par hasard qu'il est situé au cœur de l'Afrique. Ce n'est pas par hasard que le Très-Haut lui a donné tant de ressources naturelles, que l'on peut par ailleurs appeler promesse de richesse. Alors, s'il se pose la question de savoir pourquoi tout ça, il se fera un destin. Et lorsqu'on a arrêté un destin, on cherche les voies et moyens pour réaliser ce destin. C'est exactement la même chose que pour un être humain. Aucun être humain n'est sur Terre par hasard.
Donc vous voulez dire que la RDC ne gagne rien?
Non, je voudrais dire que si la RDC avait un dessein, elle aurait compris qu'est-ce qu'elle peut gagner en étant membre de la CAC. Et je me souviens que lorsque j'étais secrétaire général, j'avais incité non seulement à mon pays, mais aussi d'autres États membres pour leur montrer l'intérêt qu'ils avaient à pouvoir donner une réalité encore beaucoup plus concrète, plus politique à la CAC.
De 1980 à 85, vous êtes conseiller au bureau du président de la République pour les affaires étrangères et la coopération internationale. Et de juillet 94 à juillet 95, vous travaillez comme ministre des Affaires étrangères. Je vous invite à suivre un extrait du père Léon de Saint-Moulin, historien de son État, qui pense que la RDC doit se doter d'une diplomatie agissante pour sa stabilité.
Notre pays, si on veut qu'il prenne sa stabilité, il faut qu'il arrive à une diplomatie beaucoup plus efficace qui lui assure des alliés suffisamment forts, des forces de collaboration avec son projet suffisamment noué pour qu'on ne puisse pas l'ébranler, le renverser aussi facilement que maintenant. C'est presque à chaque tournant qu'il y en a un qui nous met KO par terre, ou en tout cas une épaule par terre, et puis on se relève, mais enfin, c'est pas une bonne vie, ça.
Réaction, professeur Lundabululu, vous souriez presque.
Oui, je crois que le père a tout à fait raison. Ce qu'il vient de dire, rentre dans ce que j'ai dit tout à l'heure, notre pays n'a pas ou n'a plus de dessein. Il n'a plus de dessein non plus. Parce que s'il en avait un, ce que nous connaissons aujourd'hui serait très très loin de nous.
En mars 1992, vous êtes président national du Rassemblement des Forces Sociales et Fédéralistes, RSF. De décembre 92 à juillet 94, vous êtes membre du Haut Conseil de la République, Parlement de Transition. En août 98 jusqu'à mai 99, vous êtes coordonnateur du RCD, alors Mouvement Politico-Militaire, pour lutter, dites-vous, contre les régimes dictatoriaux instaurés par Laurent Désiré Kabila. Fallait-il vraiment prendre les armes pour ça?
Écoutez, le président Laurent Désiré Kabila avait déclaré qu'il avait pris le pouvoir par les armes et que si quelqu'un voulait l'en chasser, il fallait qu'il recourût lui aussi aux armes. Bon, je rappelle ça pour anecdote. En réalité, ceux qui pensent que pour diriger un peuple, ils doivent recourir à la dictature, me trouveront toujours sur leur chemin et vous conviendrez avec moi que le président Laurent Désiré Kabila, que Dieu et son âme, avait dirigé la République avec une main de fer.
De mai 99 à juillet 2001, professeur Lunda Bululu, vous êtes membre du bureau politique du Collège des fondateurs du RCD, puis d'août 2001 à juillet 2003, membre du MLC. Votre vie est marquée par une série de démissions. Êtes-vous un instable politique? Avez-vous un perpétuel problème de positionnement?
Non, je ne crois pas que j'ai un problème de positionnement. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai terminé mes études le 11 juillet 1966. Alors, j'ai marché sur mes 24 ans et le secrétaire général académique reçoit un message de Kinshasa et on lui demande de proposer un des jeunes diplômés comme directeur général de l'éducation nationale, donc deuxième personnalité du ministère. Le secrétaire général m'a fait l'honneur de me demander qu'il propose mon nom. Je le prie de me donner quelques temps pour réfléchir, et après réflexion, je lui dis que le poste ne me convenait pas. Donc je n'agis jamais au hasard, et quand je dépose ma démission, c'est que j'estime que ce pourquoi je me suis engagé n'est plus. J'avais quitté le RCD parce que simplement, à ce moment-là, le RCD se gérait pire que le gouvernement de Kinshasa. Et moi, je ne pouvais pas rester, puisque à mon âge, j'avais pris les armes pour un idéal. Dès lors qu'on s'éloignait de cet idéal, je ne pouvais pas rester. Et donc, il n'y a pas de démission par fantaisie, non, non. Ça s'explique toujours. Quand j'ai quitté le Parlement de transition, étant du MLC, bon, dès lors que j'avais rompu les amarres avec ce mouvement, je devais remettre l'établi de député parce que j'avais eu le poste de député grâce à ce mouvement. Qu'est-ce qu'il y a de fantaisiste là-dedans? Sinon une logique implacable et limpide.
En 2004, professeur Lunda Bululu, vous participez à une conférence portant le thème « La RDC face à son destin ». Vous en parliez. Quel est, à votre avis, le véritable problème du Congo?
Le véritable problème du Congo, bon, écoutez, il y en a beaucoup, mais il y a le fait que nous, Congolais, nous ne savons pas quel rôle nous pouvons faire jouer à notre pays, non seulement dans la sous-région, mais en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, il y a des pays beaucoup moins nantis que le monde, sur tous les plans, qui jouent un rôle plus important. Donc, il faut que nous réfléchissions sur ce que nous devons faire, voir quels sont les paramètres qui peuvent nous conduire plus facilement à réaliser notre destin. Comment pouvons-nous domestiquer les paramètres négatifs? Oh là, qu'est-ce qu'ils sont nombreux pour atteindre ce résultat. Ce qui se passe à l'Est est quand même décourageant pour un peuple comme le nôtre. 60 millions d'habitants, malmenés par un rebelle avec plus ou moins 4000 hommes, d'après les renseignements de la MONUC. L'on dit qu'il est aidé par les Rwandais, mais les Rwandais, c'est un peuple de moins de 10 millions d'habitants. Et nous sommes 60 millions. Et l'on dit que nous avons une armée de plus de 100 000. Mais voyez-vous, c'est la manière dont nous gérons le pouvoir à tous les niveaux qui fera que, comme l'a dit le révérend père de Saint-Moulin, nous serons toujours les ventres mous, et que les gros ventres mous au cœur de l'Afrique.
En 2006, vous vous présentez comme candidat aux élections présidentielles où vous n'aurez que 1,04%. Pensiez-vous vraiment gagner?
Il y a eu un moment où je savais que tout était organisé d'avance. Et je l'ai dit en connaissance de cause. L'élection présidentielle était plus, parce que mon expression était plus une mascarade électorale qu'une véritable élection démocratique. Lorsque je suis là, naturellement, la question qui s'était posée à moi était celle de savoir si je devais rester ou non. Politiquement, si je m'étais retiré, j'aurais fait beaucoup de mal à tous ceux qui croient en moi. C'est pour cela que je suis resté. Vous dites que j'ai eu un peu plus d'un pour cent de voix. C'est possible. Mais sans m'être déplacé de Kinshasa, sans avoir fait un seul meeting, je suis quand même arrivé à avoir autant de voix. N'est-ce pas indicatif?
Radio Cassini, grand témoin.
Professeur Vincent de Paul Lunda Bululu, la Conférence épiscopale nationale du Congo, préoccupée par la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, vous le savez, dans une déclaration rendue publique jeudi dernier, les évêques et archevêques membres du comité permanent de la CENCO lancent un cri de détresse et de protestation face à ce drame qu'ils qualifient de génocide silencieux. L'essentiel de ces messages, avec le secrétaire général de la CENCO, Abbé Léonard Santédi, lui en téléphone par Pierrot et Ramégie, on l'écoute. Et on se retrouve après.
On a remarqué que dans les massacres, il y a eu des massacres ciblés des jeunes et la plupart des jeunes d'une ethnie. Serait-ce alors un génocide? Donc, la CENCO voudrait attirer l'attention des uns et des autres, attirer l'attention de nos gouvernements, mais en même temps de la communauté internationale, que ce qui se passe là-bas est inacceptable, que c'est intolérable et on ne peut pas croiser les bras et regarder tout cela. La situation aujourd'hui nécessite quelques actions particulières, notamment une aide d'urgence au niveau de la mobilisation nationale et internationale.
Réaction, professeur Lunda Bululu.
Écoutez, une fois de plus, je suis d'accord avec Monseigneur, mais là je ne suis pas d'accord, c'est lorsqu'il parle de victimes ciblées. Je pense que pour nous tous, dès lors qu'il y a mort d'hommes innocents, nous devons être troublés. Non pas pour être troublés et être conduits dans la passivité, non, non. J'ai noté par ailleurs que Monseigneur parle.
Monsieur l'abbé Santédi.
C'est Monsieur l'abbé?
Monsieur l'abbé Santédi. Ah,
peut-être viendra-t-il un jour, Monseigneur. Il parle des acteurs politiques, des Congolais et aussi de la communauté internationale. Voyez-vous, nous les Congolais, nous croyons plus dans la communauté internationale qu'en nous-mêmes. Est-ce qu'avec une armée aussi nombreuse que la nôtre, il faut la communauté internationale pour réduire une rébellion? Comme je comprends, et je sais que vous le savez, mais cette armée est mal gérée. On l'envoie au combat sans logistique. Vous avez suivi les images publiées par certaines stations de télévision étrangères où un jeune militaire disait qu'il n'avait pas encore mangé pendant 3 jours. On veut qu'il combatte affamé. Or, un adage dit, ventre affamé n'a point d'oreille. On débloque 100 000 à envoyer au lieu de l'opération. 5 000 dollars seulement arrivent. Où sont allés les 95 000? On sait où ils sont allés. A-t-on pris des mesures contre la filière et qui, de 100 000 dollars, n'a envoyé que 5 000 à ceux qui meurent pour notre pays?
Le ministre de la Justice a lancé une opération en main propre dans ce sens.
Je suis parfaitement d'accord avec lui, je l'ai suivi. Mais lorsque l'on observe ce qui se passe, force est de dire, je l'ai dit en pleurant et avec tristesse, que notre pays n'est pas gouverné.
Professeur Lunda Bululu, en 1966, vous devenez docteur en droit à l'université officielle du Congo, l'actuelle université de Lubumbashi, où vous faites votre licence aussi. En 1970, vous faites une licence spéciale en droit international de l'Université libre de Bruxelles. En 1976, vous êtes le premier Africain agrégé de la faculté de droit de l'Université libre de Belgique. Parlez-nous de vos études primaires et secondaires.
D'abord, je dirais qu'en ce qui concerne les études universitaires, moi je les ai suivies selon le programme belge, et avec tous ces programmes, ceux qui terminaient le droit avaient le titre de docteur en droit, c'est pour ça que je mets toujours entre parenthèses, égale licence en droit, pour ne pas me faire prévaloir le doctorat à thèse. Et c'est parce que j'ai suivi ces études que j'avais été admis à présenter une thèse d'agrégation pour l'enseignement supérieur. Alors, écoutez, moi je suis de Sakania, j'ai fait l'école maternelle chez les sœurs de Marie Auxiliatrice, et après cela, je suis allé à l'école primaire, toujours chez les Salésiens, et puis, me sentant la vocation de devenir prêtre, je suis allé dans un petit séminaire, toujours dirigé par le père Salésien, et vers la fin de mes études, j'ai senti que ma voix était plutôt ailleurs que...
Au séminaire.
Non, ailleurs que dans le ministère de Dieu, que de toute façon, on pouvait servir Dieu en n'étant pas prêtre.
Vous voyez le jour, le 15 octobre 42, à Mwema Mulota, quel genre d'enfant étiez-vous?
Est-ce moi le dire ou ceux qui m'ont connu, mais j'étais quelque peu turbulent.
Lunda Bululu, que signifie votre nom?
Ouais, écoutez, Lunda signifie quelque chose de très amer. Bululu aussi quelque chose de très amer. Mais Lunda signifie aussi ami. Et Bululu signifie frère au sens large. Alors tout dépend de la manière dont on prononce les deux mots, tout dépend de l'intonation.
Ah bon?
Oui.
Alors je vous invite à suivre ce témoignage d'un de vos Lunda, amis, que nous avons contacté pour vous.
Je m'appelle Jean-Romond Mouyumba Baïla. Par rapport au professeur Lunda Bululu, je suis son ancien directeur de campagne au Katanga. Je suis actuellement son conseiller politique résident au Katanga, chargé de la coordination du RSF en fonction du futur de province du Katanga. Je le connais depuis longtemps, d'abord dans le domaine du football. Je le voyais côtoyer l'équipe de Lupopo. Et moi, j'étais souvent régulier au stade. Je suis mazindien. Donc, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Bon, nous sommes pratiquement, j'en ai dit de même âge, mais il est mon aîné. Alors, sur le plan politique, je crois que je l'ai connu d'abord en tant que Premier ministre, ensuite à la conférence nationale. Et après, bon, on s'est marié entre mon parti national, le RPF et le RSF. Et nous avons fait le mariage, ça fait bientôt, je crois, 10 ans. Ce que j'aime en Lunda Bululu, c'est sa capacité à élever un universitaire au sommet, un homme qui porte le poids d'être professeur, un de ces Congolais qui souffrent de porter la croix de la dignité humaine. J'allais ajouter qu'il est d'abord d'une simplicité humaine hors commun. Quand on se présente en tenue de ville, et lui en tenue civile, il me dit souvent, vous me compliquez avec votre tenue. Ce que j'aime pas chez lui, c'est que il est trop méthodique, il est trop dur. C'est comme s'il n'est pas sur cette terre du Congo. Puis, ce que je n'aime pas non plus en lui, c'est qu'il aime trop s'attribuer sans être tribaliste. Vous savez, hein, quand nous passons des moments de sourire, hein, je l'appelle le chef coutumier de la Réma. Bon, le message, c'est que il tient bon, toujours porter sa croix de Lunda Bululu, c'est dur. Puisque ce pays, c'est un pays des opportunistes, mais je crois que nous avons le devoir de faire la différence, quel que soit le prix.
Réaction, professeur Lunda Bululu. Je vous ai vu plusieurs fois sourire, hein?
Mais je ne peux pas réagir à ce propos. C'est à vous à réagir. Il a tout simplement donné un côté de ma vie, de ma personnalité, mais il n'a pas donné toute la personnalité. Ce n'est que normal parce que l'homme est multidimensionnel.
Mmh. Sakine kolingi mboka Toyoka na mbato nyoso ya kongo Tuwota na lelo koswana Tomi pepa mpona ekolo Tuwota na bakongole Toto tikala bakongole Olinga se ikalo mosusu Ea koka bola mboka viteni Nikena ya bakongole Eko nikota ya nabamu sa souffrance Toko minele lo nansuka Banko kola muka kola ndela mboka Boyaka nito yokana Soluka neto nishu ya tongo Kodunga peko swana swana Nakati nabito lelo totika
Each and everyone around the world must know that the Congolese people need peace. In order to have that peace, now is the time to help the Congo to regain its integrity. Peace, and more peace is what we need.
Tokineto lingi mboka, toyoka na ambato nyoso ya kongo Kovoto na lelo koswana, tomi pesa mpona ekolo Tovoto na bakongole, toko tikala bakongole Olinda ke ekolo mosusu, ea koka bola mboka viteni Nikema ya bakongole, eko mikotera na bamoto sufans Toko minyele lo na mtuka, aso to Muka tola ndela mboka Oyaka nito yokana Oluka nge Sojisho ya tongo Obila peko swana swana Makati na niko lelo Tokitapo
clôturer cet entretien, professeur Lunda Bululu, quelle solution préconisez-vous par rapport à la situation à l'est du pays?
Il faut mettre fin à la guerre pour que le pouvoir établisse son autorité sur toute l'étendue du territoire. c'est de cette façon-là que nous pourrons peut-être jeter les jalons en vue d'un développement. On avait pensé qu'en énonçant un programme de 5 chantiers, on arriverait à un développement. Malheureusement, ces 5 chantiers se sont transformés en cheminées qui crachent de la fumée. Et la fumée, ça ne fait pas développer le pays. Alors, puisque notre armée n'est pas en mesure de réduire la rébellion d'Nkunda, ainsi que d'autres rébellions, il faut négocier avec Nkunda.
Professeur Lunda Bululu, merci d'être passé à grand témoin.
Merci.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais le professeur Vincent De Paul Lunda Bululu, ancien premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur et secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, à la technique Willem Lungamba, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Mbandaka, c'est dans la province de l'Équateur, et partout dans le monde.